Seb, avec un auteur dont tu as dévoré l'ouvrage, assez conséquent d'ailleurs.
Un ouvrage conséquent.
Ça t'a occupé la soirée.
Un roman graphique de 530 pages que j'ai que j'ai lu dans son intégralité, mais avec un grand plaisir. Et justement, c'est pour ça qu'avec tout aussi grand plaisir, nous recevons Bernard Catouche. Bonjour.
Bonjour, merci. Merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous, Bernard. Alors, vous êtes sur ce grand off pour deux sorties.
Oui.
La sortie donc, et deux séances de dédicaces du coup.
Oui.
La sortie d'un roman graphique, donc on en a parlé, qui s'appelle Kennedy, mm-hmm, et qui raconte l'histoire pas seulement de JFK mais justement de la dynastie Kennedy jusqu'à JFK, et Dieu sait qu'elle est intéressante. Et aussi pour un autre une autre sortie événement qui s'appelle, rien que le titre est génial,
oui,
Moi, Francky, drogué, prostitué et directeur du festival de la BD.
C'est vraiment d'à propos, ouais.
Voilà, donc bon, effectivement, alors je sais pas en combien de temps il a été fait, mais en tout cas on peut dire qu'il tombe à pic celui-là aussi.
Oui, on nous a traité d'opportunistes, mais c'est même pas vrai, ça fait 2 ans qu'on parle de faire ce livre.
Oui.
Et il s'est trouvé que quand j'ai fini Kennedy, j'avais un peu de temps avant d'attaquer un autre projet avec Philippe Pélez aussi, Pélez.
Oui.
Et ce peu de temps, on s'est dit, ben, allez, on fait le bouquin. Mais pendant qu'on le faisait, c'est vrai que petit à petit, le grand off se mettait en place, l'annulation du FIBD. Du coup, on nous a dit, ah, vous avez le sens de la propos et du timing. Non, c'est pas vrai.
Oui, voilà, on va préciser quand même que pour réaliser un ouvrage, il faut du temps.
2 mois, là, on a fait 2 mois.
Voilà, et du coup, on peut pas faire ça comme ça au dernier moment. Donc, il y a un concours de circonstances qui fait que le FIBD 2026 officiel a été annulé, le grand off le remplit. Place. Et au final, bah, quelque part, on peut se faire une idée un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, même si Francky, comment on dit ça, toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que purement fortuite, c'est bien ça?
Bien sûr, c'est une fiction totalement imaginée par l'écrivain que j'ai dessiné et que j'ai essayé de rendre du mieux que je peux. Il y a des personnages qui s'appellent Bondox,
oui,
et des dessinateurs qui s'appellent Pesseron
ou Bilol.
Bilol, exactement.
Donc oui, effectivement, bon, c'est une histoire tout à fait fictive, mais dans laquelle on peut s'identifier, on peut prêter les noms qu'on veut dessus, et qui raconte l'histoire d'un festival de la bande dessinée dans une certaine ville et sa gestion et certains petits coups d'éclat qui toute ressemblance avec la réalité peut
être totalement fortuite
effectivement. Et donc c'est un livre qui sort en avant-première sur le Grand Off d'Angoulême, qui sortira, vous l'avez dit, le mois prochain, dans une semaine.
Il sort le 6 février.
6 février, voilà.
Voilà, donc dans une semaine, et là c'est une avant-première exclusive où vous avez les deux auteurs et franchement les dédicaces valent la peine.
Ouais. Oui. Donc, les dédicaces qui sont à Cosmopolite, principalement, mais pas que.
Oui, Cosmopolite tous les jours de 14h à 17h.
D'accord.
Jusqu'à dimanche. Mm-hmm. Et on passe aussi. Bon, là, ce matin, on était au off.
Mm-hmm.
On y repasse demain. J'ai pas l'heure en tête. Et on est aussi au Salon de la mairie demain.
Au Salon de la mairie, d'accord.
Il y a la cérémonie d'adieu aux auteurs et autrices disparus en 2020. 25.
D'accord.
Donc, et le parcours se fait et on est à l'arrivée du parcours.
D'accord.
Et pour vendre notre livre, parce qu'on est des opportunistes.
Mais... oui, bien sûr, vous avez fait un livre en 2 semaines, là, juste comme ça. Non, effectivement. Et puis quand on le feuillette, on sait qu'il n'a pas été fait en très peu de temps, justement. Il y a du travail derrière et ça se voit. Avant de parler de ce bel ouvrage qui est aussi Kennedy, parlons un petit peu de vous, votre parcours.
Oui.
Le fait que vous soyez donc sur ces projets-là aujourd'hui, comment votre amour pour le dessin, comment ça s'est passé?
Oui, j'ai démarré, j'ai pas fait d'école d'art, rien. On a juste démarré comme beaucoup avec du fanzina.
Mmh.
On avait créé avec Marc Michelin et Guillaume Gers les requins marteaux.
Oui, les requins marteaux, les fameux.
Oui, voilà. Et puis après j'ai fait une espèce de petite balade parmi pas mal d'éditeurs. J'étais chez EP, chez Casterman.
Oui, apparemment il y a une collection comme les Pokémon, c'est ça, c'est ce que j'ai lu.
Ah, c'est ça, ça c'est Fred.
Il a vendu ça comme
c'est
ça.
C'est Frédéric Felder qui a fait ma bio. Du coup, il m'a dit attrapez-les tous, les éditeurs.
Bon, au final, voilà, c'est aussi le fait de se dire que quelque part, enfin, ça prend une certaine liberté, j'imagine aussi, de se dire, bah, moi, je peux travailler avec n'importe qui du moment que je peux travailler, faire ce que j'aime.
Oui, 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 voilà, ouais, ouais. Non, je ne m'interdis aucun projet. Alors, ça peut arriver, j'ai pu faire des trucs, l'histoire de la ville d'Albi, par exemple.
Oui.
Chose qui peut être totalement pour l'office du tourisme d'Albi. Et à côté de ça, eh bien, faire l'histoire de Kennedy ou de. Des Kennedy. Non, 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 je m'interdis aucun projet et je les fais toujours en les respectant et en aimant ce que. En les aimant. Mmh. Voilà.
Et justement, voilà, Kennedy, parlons-en. C'est donc un roman graphique qui part du mystère de l'assassinat de Kennedy, donc de John Fitzgerald Kennedy, mais qui décide de remonter bien avant pour comprendre le phénomène Kennedy et particulièrement une figure au milieu des autres, hein, parce que c'est loin d'être le seul personnage de ce roman graphique. C'est donc Joseph Kennedy, ou qu'on appelle Joe Kennedy.
Joe.
Et là aussi, voilà, sacré personnage. Alors. Là, pareil, forcément, j'ai plein de questions sur la rencontre avec le scénariste et sur la manière dont vous avez collaboré dessus. Mmh. Comment ça s'est passé pour faire, on va dire, une histoire aussi poussée, aussi fouillée aussi?
Oui, en fait, le scénariste, on se connaît parce qu'on est du Tarn, tous les deux.
D'accord.
Et il m'a proposé de projets. Et en fait, des deux, je voulais pas Kennedy, justement. Je voulais un autre truc parce que j'adore les voyages dans le temps et j'ai dit et en fait il a écrit ce projet, mais ils avaient entre temps ils avaient trouvé un autre dessinateur, donc je me suis retrouvé et il me dit mais vas-y franchement, et j'ai regardé le projet et je trouve ça génial de faire cette histoire là et en plus j'ai tout découvert. Ce que vous découvrez en lisant Kennedy, il y a un S à la fin.
Oui, donc, Kennedy, oui.
Kennedy. Ce que vous découvrez, en fait, je l'ai découvert au fur et à mesure que je l'ai dessiné. Mmh. Et ce personnage Joe Kennedy, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est le mec qui a lancé Walt Disney. C'est le mec qui a bossé avec Eric von Stroheim. Ça a été un financier incroyable. C'est un des seuls qui est pas tombé lors du crack de Wall Street. C'est un personnage fou et qui a un objectif. C'est qu'un de ses fils soit président.
Ouais.
Et il amène cet objectif à terme.
C'est
hallucinant, quoi. Ce mec est hallucinant.
Il est d'une influence incroyable sur l'Amérique entière du 20e siècle. En fait,
hein, il a façonné l'Amérique moderne qu'on connaît, quoi. Et personne ne sait qui c'est.
Oui.
Du moins, les gens un peu âgés savent, mais tout le monde parle de JFK, mais personne ne sait d'où il vient. Mmh. Il a été fabriqué par Joe Kennedy, quoi.
Complètement. Et on voit vraiment le côté coûte que coûte et acharné du personnage pour dire voilà, j'ai mes objectifs, on arrivera à ça.
Ce
type n'a peur de rien, quoi.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en lisant le livre. C'est ce côté on prend l'idée de la success story, on prend l'idée du rêve américain, mais on les retourne et on montre l'envers du décor, que ce soit à Hollywood, dans les affaires, dans la politique bienveillante. Dans l'honneur, etc. Tout ça, on voit tout ce qui est derrière, en fait, et les vraies motivations de Joe Kennedy. Pour ça, c'est quand même quelque chose qui vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour l'histoire.
Oui.
Et aussi pour le dessin, parce que, effectivement, quand même, j'allais dire 530 pages. Bon, est-ce qu'on peut parler de bureau de travail quand on parle de 530 pages de roman graphique?
Après, je veux pas minimiser mon travail, mais c'est quand. C'est du comics, en fait. Et les auteurs de comics sortent à peu près 20 pages par mois. Donc, si on multiplie par 3 ans, on arrive à. C'est vraiment le rythme des dessinateurs américains.
Ouais.
C'est pas celui des Japonais, mais on est au rythme des Américains et c'est à peu près le même format. C'est pas extraordinaire, mais c'est le fait d'aller voir d'un coup. Un one shot, 500 pages, c'est vrai que c'est impressionnant.
Mais il y a aussi, surtout qu'il y a quand même du. Le style, voilà, c'est du noir et blanc, c'est de l'ancrage encre de Chine,
non? Non, c'est. Désolé,
non,
c'est du numérique.
Bah, aucun mal à ça. Mais en tout cas, le rendu est d'une propreté incroyable, mais surtout, il y a quand même pas mal de scènes qui sont très, très, très détaillées.
Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'était. À chaque fois, je me dis, oh là là, mais non, mais j'y arrive. Par exemple, le discours de Martin Luther King. Il fallait montrer la foule, la foule sur le comment ça s'appelle, le
sur son discours I Have a Dream.
Oui, oui, c'est un endroit à Washington, là, mais c'est pas grave.
Pareil.
Oui, oui. Et en fait, au Capitole.
Ah oui, voilà. Merci.
Et en fait, il fallait les dessiner, mais il faut que les gens sentent le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Mmh. Et à chaque fois, j'étais là, oh non, je vais faire genre comme font la plupart des dessinateurs, faire un gros plan, et puis faire deviner. Non, là, j'ai dit, non, je montre la foule, je dessine chaque personnage. Alors, je me suis aidé de photos et tout ça quand même.
Ouais.
Mais ça, même s'aider de photos ne résout pas le problème.
Oui, parce que des lieux, il y en a aussi beaucoup qui sont, voilà, décrits. Enfin, du moins, il y a beaucoup de décors dans ce livre. Et là, pareil, j'imagine qu'il a fallu se baser sur un petit peu l'identité visuelle de certains lieux d'Amérique.
Oui. Alors, on a essayé. Il a été le plus précis possible, Pélaez, Philippe. Ouais. Et du coup, par respect pour son travail, j'ai fait la même chose avec les... Et par exemple, l'assassinat, le Dealey Plaza, je l'ai étudié dans tous les sens. J'ai étudié chaque coin de cette place. J'y suis jamais allé, mais je pourrais y aller, les yeux fermés, vous toucher, vous dire là c'est ça, trouver l'impact de la balle, ainsi de suite. Parce qu'il y a une balle qui atterrit sur un trottoir et il y a des... Non, j'ai respecté son travail. Et puis j'ai même trouvé des lieux qui sont super durs, qui ne sont représentés nulle part, quoi. Et j'étais assez fier du boulot de documentation qu'on a fait tous les deux.
Ouais, mais voilà, je vais dire sacré boulot, parce que même quand on a vu le film JFK qui s'est sorti en 91, quand on a un petit peu regardé quelques reportages, on trouve encore le moyen d'en apprendre en lisant Kennedy's, parce qu'il y a des choses qui sont sorties soit entre temps, soit qui n'étaient pas, pas forcément mises en avant, mais qui pourtant comptent quand même dans le
bien
détail.
Sûr, ouais.
Et c'est ça qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il prend le temps de nous montrer des choses en disant, regardez, pour la vue d'ensemble, vous avez peut-être besoin de ça. Et ça vaut le coup aussi de creuser ça. Notamment, justement, on parlait de l'interaction entre le scénario et le dessin. Il y a un passage, moi, qui m'a particulièrement marqué. C'est la lettre de Joe Kennedy Jr., donc le frère.
Oui.
Quand il est en Allemagne et qu'il fait une espèce d'apologie de ce qui va devenir le Troisième Reich, et avec un enthousiasme incroyable pour ce grand, ce grand homme dont il parle, et pendant qu'on a les extraits de sa lettre, on a toute la réalité graphique qui est dessinée derrière, où on voit justement, c'est une espèce de contrepoint énorme en fait entre le Joe Kennedy Jr. qui dit c'est intéressant, après tout on peut faire quelques sacrifices mais c'est pas grave, etc. Ouais. Et derrière on voit les déportations, les rafles et tout le fascisme qui monte. Et ça, je trouve que c'est là, de ce côté là je trouve qu'il y a vraiment, voilà, là on sent vraiment la collaboration entre le scénariste et le dessinateur, histoire de dire que derrière les mots il y a aussi une réalité. Et moi, ce passage m'a vraiment marqué.
Ah, merci. Oui, merci. Je suis content que vous ayez vu ça, parce que c'était pas évident, parce qu'on pourrait croire, parce que la lettre date vraiment de 36, où c'est la montée du nazisme, c'est au moment où il est devenu chancelier, alors que les illustrations sont postérieures à cette lettre. Mais c'était pour dire que chacun des mots impliquait une action future qui était juste horrible. Et ça, de toute façon, ça a plombé ce parti pris qu'a eu Joe Kennedy et son fils, ont plombé complètement la carrière politique de Joe Kennedy, qui était ambassadeur en Angleterre, ambassadeur des États-Unis en Angleterre, ce qui était extraordinaire pour un Irlandais.
Oui. Là aussi, là pareil, c'est vrai qu'il y a toute une interaction énorme avec le président Roosevelt, qui quelque part a besoin du soutien de Joe Kennedy, mais qui sait pas trop quoi en faire non plus, donc il essaie de le placer quelque part. Ça l'embarrasse, mais on lui dit, mais faites quand même quelque chose, parce que si vous l'avez contre vous, ça va pas aller. Et puis c'est du malgré tout, ça se place un peu comme ça, et au final ça a des conséquences incroyables, quoi.
Oui, c'est fou de voir à quel point des actes politiques aussi importants et puis être pris aussi autant à la légère. Envoyer Joe Kennedy en Angleterre était la pire erreur que pu faire Roosevelt, quoi.
Et aussi dans la psychologie des personnages et la manière dont ils arrivent un petit peu à se démarquer, il y a le John Fitzgerald, ou Jack comme on l'appelle, c'était son surnom, qui prend un peu le contre-pied de son père, même s'il a évidemment favorisé, mais qui se dit, bon d'accord, oui j'ai un destin, mais en attendant je vais quand même prendre mes propres décisions. Il a pas envie de faire semblant d'aller à la guerre, il y va vraiment. Il a pas envie de faire semblant d'avoir combattu, il combat vraiment, quitte à prendre de gros risques. Et au final il y a peut-être des choses qui peut-être expliquent aussi son succès à lui, en dehors du fait qu'il était ultra favorisé.
Oui, oui.
c'est voilà, ça reste quand même une belle au-delà des rouages politiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-là des rouages politiques et des magouilles, il y a aussi l'histoire humaine dans une dynastie où où quelque part, bon voilà, vivre dans l'ombre de son père n'est pas forcément toujours évident, même quand on est un Kennedy.
Oui, c'est ça. Après, c'est on le voit aussi dans le livre, c'est quelqu'un qui a lutté contre la mort toute sa vie.
Oui.
Il a été très très malade et très très malade, et en fait c'est quelqu'un, il a reçu 3 fois ou 4 fois l'absolution dans sa vie, dont une qui était la bonne, et je pense que ça a forgé son caractère. Du coup, il n'a pas été totalement docile par rapport à parce qu'il devait exécuter à chaque fois, il était président, il devait continuer d'exécuter les ordres de son père.
Oui.
Et à part prendre Bobby comme ministre de la justice, le reste du temps il s'opposait à son père. Il s'est opposé à son père plusieurs fois parce qu'il avait cette force de caractère. Mais après c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la littérature, c'est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, et pour moi il avait un bon fond malgré tout ce qu'on peut lui attribuer, le coureur de jupons et ainsi de suite. Il y avait quand même quelque chose. Après, son plus gros avantage, c'est d'avoir eu Bobby comme bras droit. Parce que Bobby, l'héritage de Kennedy, tous les droits civiques, l'humanisme et tout ça, c'est beaucoup Bobby qui a amené ça dans les décisions politiques de Jack Kennedy. Mmh. Donc Bobby était important, il aurait fait un très bon président s'il n'avait pas été assassiné en 69.
Effectivement. On a aussi pas mal de petites figures connues ou moins connues d'ailleurs qui apparaissent dans ce roman, notamment la fameuse Gloria Swanson.
Ah, que j'aime tellement.
Et apparemment, voilà, qui au final, effectivement, ça met en lumière une partie de sa carrière qu'on a peut-être un peu oubliée maintenant, parce qu'avec l'arrivée du cinéma parlant, voilà, il y a eu des choses pour lesquelles on retient Gloria Swanson, pour peu qu'on la connaisse. Oui. Mais là, au final, oui, effectivement, il y a eu non seulement une carrière avant, évidemment, mais aussi une interaction avec la famille Kennedy.
Oui.
Une certaine interaction.
Oui, Gloria Swanson, ouais, c'est vrai que ce qu'on a retenu d'elle, c'est que quand le cinéma est passé au parlant, sa voix était tellement horrible. Mais j'ai déjà regardé son premier film.
Oui.
Et elle a une voix insupportable. Et alors que c'était une méga méga star. Merci. Une méga méga star du muet, mais vraiment. Et moi, ce que j'ai aimé chez elle dans ses films muets, c'est cette espèce de femme moderne. Après les années 20, il y a eu une émancipation de tout, des idées, des esprits. Les femmes se sont émancipées.
Oui.
Et moi, dans les films de Gloria Swanson, ces films, elle présente une femme qui fume, qui se laisse pas faire, qui pousse les hommes, qui est indépendante. Dans tous ces films, elle est comme ça, et c'est assez fou qu'elle se soit faite avoir par Joe Kennedy, quoi.
Ah, ça, alors qu'il y avait vraiment une œuvre, une envie, voilà, il y avait toute une œuvre qui se construisait justement sur ce combat de personnages féminins, voilà. Et qui, bon, bah, au final,
c'est ça, parce qu'on la présente comme une nana qui se fait surtout pas avoir. Et qui est hyper méfiante, qui fait confiance à personne. C'est comme ça qu'elle se présente, et on la voit glisser petit à petit et tomber dans le piège de Joe Kennedy. Ça m'a énervé. Des années après, j'étais en colère contre eux.
Mais en même temps, qui n'est pas tombé justement dans les pièges de Joe Kennedy, quoi. C'est quand même
Sophia Loren,
d'accord.
Pas de Joe, de Jack.
De Jack, ok.
Parce que Jack collectionnait les stars du cinéma.
Oui.
Et Sophia Loren l'a envoyé bouler. J'ai mené mon enquête.
Ça va. Donc on a parlé effectivement de Joseph Kennedy, du Franklin Roosevelt, de Gloria Swanson, effectivement de la tentation fasciste du père et du frère Kennedy, non partagé par JFK. Arthur Croc aussi, toute la partie éditoriale et presse qui peut faire et défaire des hommes aussi, et qui a largement contribué au succès, quitte à écrire des livres que Kennedy n'ont pas écrits, mais qu'on a présenté comme leurs livres.
Mais oui, Randolph Hearst, qui est le fameux Citizen Kane, qui a été l'ami de Joe Kennedy, et qui a fait aussi, c'est grâce à Randolph Hearst que Roosevelt est obligé de prendre Joe Kennedy dans son gouvernement, parce que c'est l'argent du mania de la presse, le mec le plus puissant des États-Unis à ce moment-là, que Non, non, il était super malin, Joe Kennedy.
Et sur donc arrive forcément l'événement qu'on attend tous, c'est l'assassinat de Kennedy,
oui.
Où il est clairement dit que bon ben. Pour l'heure et peut-être pour toujours, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé, étant donné que tout ce qui devait être déclassifié au final a été caviardé comme jamais. Enfin, en tout cas, je me rappelle quand les documents sont sortis, je les ai regardés, je me suis dit, tiens, bon, c'est bizarre. Beaucoup de lignes noires sur les dossiers, il ne reste plus grand-chose à lire en fait. Ouais. Donc on se dit, bon, ça valait le coup de déclassifier si c'est pour en dire aussi peu.
Oui.
Et, mais par contre, ce qui est, voilà, ce qui est intéressant, et là où j'ai dit qu'on pouvait en apprendre d'autant plus, c'est surtout les éléments qui ont été notés à l'époque, ne serait-ce que les prises de témoins, la manière dont certains témoins se sont rétractés, la manière dont certains témoins sont morts aussi, la manière dont l'enquête a retenu ou pas, de manière parfois très arbitraire, certaines choses les rapports d'autopsie et différents éléments. Et là, en fait, ils sont, voilà, ils sont répertoriés en disant on ne peut pas savoir, mais regardez quand même ce qu'on a. Et c'est incroyable, et tout ce qu'il y a par rapport au rapport d'enquête de 1979. Quoi.
Ah oui, la deuxième.
72, oui.
Non, 79, ouais. Parce que les deux. Alors, bon, là, je ne suis pas le scénariste, et même si j'ai dessiné, je ne peux pas citer les commissions. Il y a eu deux commissions, la commission Warren et une autre commission en 79, justement, ouais. Qui était ce qui est le personnage qu'on a inventé. Une espèce de congressman qui revient sur cette commission-là.
Oui.
Mais oui, en fait, la première commission, la commission Warren, qui a été un peu commanditée par Johnson dès le départ. En fait, dès la mort de Kennedy, Johnson dirige l'enquête sur un seul tireur. Mmh. Un seul tireur isolé,
ouais.
Qui a travaillé tout seul.
Ouais.
Et à partir de là, en fait, ils n'ont pas enquêté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont enquêté pour prouver qu'il y avait qu'un seul. Ils ont pris la chose à l'envers.
Oui, ils ont cherché à confirmer leur théorie, voilà. De base. Ouais.
Mais Johnson, on le voit dans le livre, à un moment, il donne l'ordre de nettoyer la voiture.
Mmh.
C'est une pièce à conviction.
Oui.
Il donne l'ordre de nettoyer la voiture, la Ford Lincoln dans laquelle le président a été assassiné. C'est juste la pire. Sur laquelle on pouvait très bien voir les impacts de balles, tout ce qui s'était passé, quoi. On aurait pu tirer des conclusions. Ils font n'importe quoi, les reconstitutions avec les mauvaises bagnoles, non, ça a été, c'est une pantalonnade sans pareil, quoi.
Ouais, complète. Alors qu'il y avait des petites vidéos, il y avait des photos qui montraient qu'il y avait des policiers dans des buissons, là où le rapport dit qu'il n'y avait personne.
Ouais, ouais,
des choses comme ça, voilà, où on se dit, bon, au final, voilà, ça sent le gros cafouillage.
C'était n'importe quoi.
Volontaire ou pas, ça après chacun décide, mais en tout cas ça sent vraiment le gros cafouillage.
Oui, on ne sait pas si oui c'est ça. Nous on donne pas, parce que les gens souvent nous demandent quand on fait les signatures. Alors j'espère que vous nous dites qui a tué Kennedy.
Bah, non.
En fait on redit la même chose que, mais on le repose de façon assez objective.
Mmh.
On sait que il y a un complot, voilà. Il y a un complot qui a fait que. C'est impossible qu'il y ait un tireur isolé, un seul tireur avec trois balles. Non, c'est impossible.
Mmh.
Mais voilà, on dit juste il y a un complot, et on dit tous les gens qui ont tourné autour de ce complot. Qui a fait quoi ? Après, on peut pas, on va pas plus loin.
Vous posez les choses. Après, ouais. C'est une source de réflexion.
Voilà, c'est ça. On doit être les. Je crois qu'il y a eu. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais plus de 20 000 bouquins qui ont été écrits sur l'assassinat de Kennedy.
Ouais.
Donc, je sais pas ce qu'on pourrait apporter de plus. On fait pas ce livre pour apprendre, mais pour comprendre.
Très bien. Après, j'ai pas envie de révéler tout le film, tout le film.
Oui, pardon,
toute l'histoire.
Ça me fait plaisir. Quand on lit un bouquin et qu'on a l'impression d'avoir vu un film, c'est qu'on a gagné.
Ouais, en effet, effectivement, c'est quand je me repasse le récit dans la tête. Oui, ouais. Effectivement, il est extrêmement vivant. Et donc voilà, j'ai pas envie de tout révéler, mais c'est vrai qu'il y a quand même des passages assez glaçants, notamment un, voilà, que je révélerai pas, mais qui est à l'hôpital juste après le tir, quand un des médecins dit, voilà, fait une remarque. Bon.
Ouais.
Voilà, des choses comme ça, quoi.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, j'invite vraiment, vraiment les personnes à lire donc Kennedy's, qui raconte donc l'histoire de la dynastie Kennedy depuis son arrivée d'Irlande jusqu'à l'assassinat du président. C'est un voyage dans l'Amérique et qui explique, qui fournit pas mal d'éléments de réflexion sur comment sont faits les hommes de pouvoir, ce que font les hommes de pouvoir et comment la société peut parfois en pâtir niveau médias, niveau cinéma, niveau guerre, niveau politique. Il y a énormément d'éléments qui montrent les hommes de pouvoir et ce qu'ils peuvent réellement faire. Donc les dédicaces, vous l'avez dit, on vous retrouve encore demain, mais pas seulement à Cosmopolite, mais quand même demain à Cosmopolite jusqu'à dimanche.
Oui, voilà. Demain, c'est quoi, c'est samedi?
On est Ah oui, si. Ah si, demain c'est dimanche, autant pour moi.
Demain dimanche, oui.
Oui, pardon. Oui, non, c'est moi aussi, je me perds dans les jours. On est bien samedi, oui, c'est ça. C'est bon, je suis revenu.
Il est trop long ce festival.
C'est pas faux. On perd la notion, là.
Et oui, demain encore, 14h, 17h ici. Voilà. Après, on retourne off aussi, on dédicace aussi, on dédicace sur les deux lieux.
D'accord. Et cette aventure, Bernard, vous a donné envie de vous orienter vers autre chose, de poursuivre des recherches et
il a déjà remis le couvert avec un autre grand projet. Alors j'en parle pas plus. Ça se passerait aussi dans ces années-là.
D'accord.
Donc, comme c'est pas, il y a rien qui est, mais il m'a déjà, on bosse sur autre chose avec lui, sur une série d'un 3 tomes, pas une série, mais une histoire en 3 tomes, avec des voyages dans le temps qui se passaient à Alcatraz et tout ça, Alcatraz dans les années 60 pendant l'évasion l'évasion de Clint Eastwood, par exemple. Je sais pas comment, j'ai oublié le nom
de l'original.
Et en même temps, on est en train de travailler sur pareil, un autre pavé historique, documenté, parce qu'on a vraiment pris du plaisir à le faire.
Et petite question très curieuse, le fameux projet avec le voyage dans le temps, c'était quoi?
Et c'était neuf, c'est devenu neuf chez Dargo.
D'accord.
Voilà, neuf qui est super bien. J'ai oublié le nom de dessinateur, mais peut-être par N.
Bon, désolé de remuer ça, c'est juste
non, c'est ça.
J'étais curieux.
Neuf qui est magnifique, ouais. Qui est une belle histoire où de quelqu'un remonte le temps pour essayer de sauver son père dans le passé, c'est super beau. Et c'est un peu à la Interstellar et tout ça, c'est vraiment le bouquin que je voulais dessiner.
Ah, okay, je vois.
Mais je suis content d'avoir fait Kennedy, vraiment.
Et en tout cas, moi je suis vraiment content d'avoir lu, vraiment ça vaut le coup. Je l'ai lu d'une traite, hein. Il m'a fallu quelques heures, effectivement, cool. Parce que 530 pages, ça c'est, voilà, ça ne valait pas en une heure ou deux, mais plutôt en 4-5. Mais ceci dit, vraiment, ouais, je recommande donc aux personnes de venir vous voir en dédicace et de repartir avec le livre, parce que vraiment c'est aussi prenant qu'instructif.
Comment se passe ces séances de dédicace, Bernard?
Ça va,
forcément, ça demande beaucoup d'énergie, je suppose, mais il y a un échange autour de l'ouvrage.
Oui, c'est pour ça. Je suis plus rassuré quand Philippe est là, parce que lui, il gère super bien toutes les questions historiques, techniques et tout ça. Moi, je peux juste répondre comment j'ai dessiné. Parce que même en dessinant, j'ai déjà oublié tous les noms parce que j'étais dessus, donc il fallait que je les dessine. Je me suis intéressé à eux, mais au fur et à mesure, je les oublie parce que je suis pas du tout. Philippe est un universitaire. Il a lu plus de 300 livres sur le sujet, et donc lui peut répondre plus facilement au lecteur. Mais les échanges, même quand il n'est pas là, les échanges passent bien. Et sur Francky, beaucoup de questions aussi qui sont rigolotes, parce que on est dans la mère patrie de Francky Vallonnet, et du coup beaucoup de gens le connaissent. Et ici, il est très connu dans Angoulême.
Oui.
Et on a pas mal de questions. Ah bon, c'est sûr, c'est lui, c'est pas lui. Nous, on nie les faits.
C'est génial.
Oui. On nie tous les faits. On n'était pas là. Ça ne parle pas du tout de la ville d'Angoulême.
Non.
La ville s'appelle Angougou. C'est pas du tout.
Ah oui, effectivement. Bizarrement, mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Voilà, comme on dit, faites-vous vos propres théories.
Exactement.
Mais lisez-le en tout cas.
Oui.
Ça marche.
Merci Bernard de nous avoir accordé un bon moment, et puis remercier Cosmopolite, hein, qui vous ont libéré.
Gentil d'ailleurs, je vais y retourner au cas où j'ai une file d'attente incroyable.
Ça marche,
qui m'attend. En fait, je fais semblant d'y retourner, mais je vais peut-être faire un petit détour par.
Oui, et puis
par l'expo, sympa, jour, hein. Par l'expo ici.
L'expo Médon, elle est sympa. Ouais.
Oui.
Ça vaut le coup de la regarder en tout cas.
Exactement.
Bon, on s'écoute un petit Nick Cave.
Allez.
Ah, c'est pour créer l'ambiance, voilà, tout simplement, ce samedi, et profiter de l'après-midi. C'est votre choix. Children, on va écouter la version live, et puis on vous souhaite bonne route, et puis au plaisir de vous recevoir pour un autre projet.
Merci de m'avoir reçu, c'était super sympa, et le lieu, ça, franchement, vous êtes super bien là, avec des motos, des squelettes.
Exact.
C'est super bien, merci encore.
Merci Bernard, il faut profiter bien de cet événement, le grand off ici, avec beaucoup de rencontres, à vivre. Allez, ne manquez pas les séances de dédicaces pour venir discuter un bon moment avec Bernard et profiter de cette proximité ici à Angoulême. Merci à vous Bernard.
Merci.